Celui-ci garda un silence plein de dignité. Exactement ce qui convenait pour un vieux mâle au museau blanc à force de grisonner. Avec sa meute, il n'était qu'à un quart de lieue de Perrine. Supposer que jeune taureau n'était pas capable de sentir sa présence aurait été une insulte. Par recoupement, Perrine arriva à un nombre voisin de 28 lieues, voire un peu moins, et en tout cas, pas supérieur à 30. Le lendemain, il serait capable de calculer à quelle vitesse il gagnait du terrain sur les Aes Sedai. Comme il l'avait prévu, avec les chariots, les sœurs avançaient moins vite que sa colonne. Pourquoi ? La question venait de demi-queue, transmise par les autres mais identifiée par son odeur. Perrine hésita avant de répondre. Depuis le début, il redoutait cet instant, car il avait pour les loups la même affection que pour les jambes de Rivière.
« Ils ont mis en cage le tueur d'ombre !»
finit-il par répondre. C'était le nom que les loups donnaient à Rand. À part ça, il ignorait s'il lui accordait la moindre importance. La stupeur qui lui vint des loups sembla une réponse sans équivoque. Puis des cris d'angoisse et de colère retentirent dans la nuit. Énervés, les chevaux du camp hennirent, raclèrent le sol avec leurs sabots et tirèrent sur les piquets où était attachée leur licole. Des hommes vinrent les calmer, puis ils sondèrent la nuit, comme s'ils redoutaient de voir une meute géante déferler des montagnes.
« Nous arrivons !»
lança simplement demi-queue. Pas un mot de plus. Mais d'autres meutes répondirent aussi, certaines avec lesquelles Perrine avait communiqué, et d'autres qui s'étaient contentées d'écouter le deux-pattes apte à parler le langage des loups.
« Nous arrivons !»
Là encore, rien de plus. Perrine se tourna sur le côté, s'endormit comme une masse, et rêva qu'il était un loup traversant des collines sans fin. Le lendemain matin, aucun signe des loups. Même les aïels ne signalèrent pas leur présence, mais Perrine les sentit. Des centaines d'entre eux étaient en chemin. Les quatre jours suivants, les collines cédèrent le pas à une plaine dont les rares élévations méritaient à peine le nom de butte, comparé à celle que la colonne avait dû négocier au début. La forêt s'éclaircit, devenant une prairie semée çà et là d'arbres de buissons desséchés. Tous les cours d'eau que traversèrent les voyageurs réussirent à peine à mouiller les sabots des chevaux. Quand ils ne se réduisaient pas à des lits, où la boue durcie se le disputait aux cailloux. Chaque nuit, les loups donnaient à Perrine toutes les informations dont ils disposaient sur les Aes Sedai. Hélas, ce n'était pas grand-chose. La meute de flammes sauvages les pistait, mais de trop loin pour en savoir très long. Un point devint clair, cependant. Chaque jour, Perrine et sa colonne parcouraient la même distance que lors de la première journée. Donc, ils gagnaient quotidiennement 4 lieues sur leur proie. Mais quand ils les auraient rattrapés, que faudrait-il faire? Chaque soir, avant de communiquer avec les loups, Perrine fumait la pipe avec Loyal. Une agréable occasion pour discuter de ce « que faudrait-il faire ?» Dobraine militait pour une charge, quitte à ce qu'ils meurent tous en accomplissant leur devoir. Rouark conseillait de voir sur quoi brillerait le soleil le lendemain, et ajoutait que tout homme devait un jour s'éveiller du rêve qu'était la vie. En somme, ce n'était guère différent des propos du Seigneur. Jeune pour un ogier, Loyal avait quelque chose comme 90 ans, et Perrine le soupçonnait d'avoir lu plus de livres qu'il en verrait lui-même dans sa vie. Souvent, le géant faisait montre de connaissances surprenantes au sujet des Aes Sedai.
Plusieurs ouvrages abordent la façon dont les sœurs traitent les hommes capables de canaliser,
dit un soir Loyal, tout en tirant sur sa pipe au fourneau sculpté de feuilles, deux bonnes fois plus grand que celui de la bouffarde de Perrine.
Tout au début du règne d'Arthur el de Faucon, Elora, fille d'Amar, fille de Coura, a écrit un livre intitulé « Hommes de feu et femmes d'air ». Il y a seulement 300 ans, Ledar, fils de Chandin, fils de Koïmal, a signé un essai sur les hommes, les femmes et le pouvoir de l'unique parmi les humains. Ce sont, à ma connaissance, les meilleurs textes de référence. Celui d'Elora, surtout. Elle écrit dans le style de « Bref, il faut que je sois bref ».
Bref ? Perrine douta que ce soit possible. Déjà volubile en temps normal, Loyal devenait intarissable quand il s'agissait de livres.
Selon les lois en vigueur, un homme doit être conduit à la tour et jugé avant qu'il soit possible de l'apaiser.
Les oreilles de l'ogier frémirent, ses longs sourcils se mirent en berne, puis il se ressaisit et tapota l'épaule de Perrine.
Je ne crois pas que ce soit dans leurs intentions, mon ami. J'ai entendu dire que les sœurs parlaient de lui rendre honneur. De plus, elles savent qu'il est le dragon réincarné.
Lui rendre honneur, elles le feront peut-être dormir dans des draps de soie. Mais un prisonnier reste un prisonnier.
Je suis sûr qu'elle le traite bien, Perrine.
Sûr de rien, en réalité, Laugier exhala un soupir qui n'aurait pas dépareillé dans une tempête.
De toute façon, il ne risque rien jusqu'à ce qu'il arrive à Tarvalon. Mais je ne comprends pas comment ses sœurs ont pu le capturer.
Loyal secoua pensivement son énorme tête.
Et Laura et Ledar le disent toutes les deux. Quand les Aes Sedai découvrent un homme très puissant, elles font toujours en sorte d'être 13 pour s'assurer de lui. Nos deux auteurs mentionnent bien quelques cas où 4 ou 5 suffirent. Et ils parlent de Karaigan, une sœur qui conduisit un homme à Tarvalon, seule et sur près de 800 lieues, après qu'il eut tué ses deux champions. Mais, Perrine, Elora et Ledar ont écrit sur Yurion Arc de Pierre et Geir Amasalan, sur Raoulin Noir Fléau et Davian aussi. Mais ce sont les deux premiers qui m'inquiètent.
Ces 4 hommes comptaient parmi les plus puissants qui s'étaient jadis proclamés dragons réincarnés, bien avant le règne d'Arthur.
6 Aes Sedai ont tenté de capturer Arc de Pierre. Il en a tué 3, faisant les autres prisonnières. 6 sœurs, de nouveau, se sont prises à Amalasan. Résultat, une morte et 2 sœurs calmées. Sans aucun doute possible, Rand est aussi puissant qu'Arc de Pierre ou Amalasan. Y a-t-il seulement 6 sœurs devant nous? Dans le cas contraire, ça expliquerait beaucoup de choses.
Peut-être, mais ça n'avait rien de réconfortant. Même sans l'aide de leurs champions et des soldats, 13 Aes Sedai étaient en mesure de repousser toute attaque lancée par Perrine. Et elle pouvait aussi l'empêcher d'agir en menaçant d'apaiser Rand, s'il bougeait une oreille. Une menace en l'air? Probablement, puisqu'elle savait que le dragon réincarné devait participer à l'ultime bataille. Mais était-ce un risque à prendre, quoi qu'en disent les lois de la tour? Qui pouvait prévoir ce qui poussait les sœurs à prendre telle ou telle décision? Perrine n'avait jamais réussi à se fier à une sœur, même quand certaines avaient tenté de se montrer amicales avec lui. Elle gardait bien trop de secrets, et il était impossible de savoir ce qu'elle mijotait dans le dos d'un homme, même et surtout quand elle lui faisait des grâces en face. Oui, qui pouvait prédire le comportement de ces femmes? Il s'avéra que Loyal ne savait pas grand-chose qui soit susceptible d'aider, quand viendrait le moment décisif. De toute façon, il avait surtout envie de parler d'Erith. Comme Perrine le savait, il avait confié 2 lettres à Fail. Une adressée à sa mère et l'autre à Erith, qu'elle avait mission de remettre à leur destinataire quand elle le pourrait, s'il arrivait quelque chose de malheureux. Bien entendu, Laugier avait tenu un long discours à Fail pour lui assurer que rien de fâcheux ne se produirait. Inquiéter les autres le rendait malade, sans doute à cause de son bon cœur. Perrine avait naturellement écrit une lettre pour sa femme. Amis s'était chargée de la transmettre au matriarche dans le camp Aiel.
Elle est si belle,
murmura Loyal, admirant la nuit comme s'il avait contemplé le visage de sa bien-aimée.
Ses traits sont si délicats, même s'ils ne manquent pas de puissance. Et quand je croise son regard, il me semble que mes yeux ne peuvent rien voir d'autre. Et ses oreilles?
Les propres oreilles de Laugier tremblèrent frénétiquement, et il faillit s'étrangler avec sa pipe.
Perrine, pardonne-moi, je t'en prie. Oublie que j'ai parlé de... Je n'aurais même pas dû y faire allusion. Tu sais que je ne suis pas grossier, n'est-ce pas?
J'ai déjà oublié,
lâcha Perrine, médusée. Les oreilles d'Erith? Loyal voulut savoir ce que ça faisait d'être marié. Non qu'il eût l'intention de prendre femme, se hâta-t-il d'ajouter. Encore trop jeune, avec un livre à finir, il ne se sentait pas prêt à mener une petite existence casanière, sans jamais sortir du sanctuaire, sauf pour aller en visiter un autre. Ce que toute épouse digne de ce nom insisterait pour faire de temps en temps. Bref, il était curieux, et rien de plus. Perrine parla de sa vie avec Fail, et de la manière dont elle l'avait déraciné avant qu'il s'en rende compte. Avant, 2 rivières étaient son foyer. Aujourd'hui, c'était là où se trouvait Fail. Songer qu'elle l'attendait l'incitait à accélérer le pas. Sa présence suffisait à illuminer une pièce, et son sourire dissipait tous les problèmes. Bien entendu, le jeune homme ne parla pas de la façon dont bouillait son sang quand il pensait à elle, ni des battements de son cœur qui s'accéléraient lorsqu'il la regardait. Ces choses-là devaient rester intimes, tout comme le trouble que Fail avait instillé jusque dans la moelle de ses os. Que devait-il faire pour arranger les choses? se jeter à genoux devant elle. Il y était prêt, mais quelque chose en lui exigeait quand même qu'elle dise le premier mot. Ou simplement qu'elle lui fasse comprendre son désir de voir les choses redevenir comme avant.
« Et sa jalousie ?»
demanda Loyal. Cette fois, ce fut Perrine qui manqua s'étrangler.
« Toutes les épouses sont comme ça.
Sa jalousie ?»
répéta Perrine.
« Fay, il n'est pas jalouse. Où as-tu été chercher cette idée ?»«
Pas jalouse, mon œil !»
siffla Loyal. Il étudia le fourneau de sa pipe.
« Aurais-tu encore du tabac de Rivière ? Tout ce qui me reste, c'est du Kyrienien qui arrache la gueule. »
Si tout avait été de ce tonneau-là, le voyage aurait été paisible. En tout cas, autant que possible pour une poursuite. Sous un soleil de plomb qui transformait tout en fournaise, la colonne continua à avancer sans croiser personne. En revanche, des faucons tournaient souvent en cercle dans le ciel bleu. Peu désireux d'attirer les humains à eux, les loups faisaient en sorte de pousser vers la route des cerfs, en nombre suffisant pour nourrir une telle expédition. Du coup, il n'était pas rare de voir sur le bas-côté un chevreuil, sa chevrette et leurs petits, regarder placidement passer la longue colonne de cavaliers. Mais comme le disait un vieux dicton, le seul homme totalement en paix est un homme qui n'a pas de nombril. Comme de juste, les Kairieniens ne se sentaient pas très à l'aise avec les Aiels. Du coup, ils leur lançaient des regards noirs ou allaient jusqu'à ricaner méchamment sur leur passage. Plus d'une fois, Perrine entendit Dobraine maugréer, parce que ces hommes étaient en infériorité numérique. 12 contre 1, ça faisait une sacrée cote. L'officier respectait les qualités martiales des Aiels, mais à la façon dont on admire la cruauté et l'efficacité d'une troupe de lions féroces. De leur côté, les Aiels s'abstenaient de ricaner et ne lançaient aucun regard noir. Traiter les Kairieniens par le mépris, voilà tout ce qui leur semblait digne d'eux. À force de les voir nier l'existence des tueurs d'arbres, Perrine n'aurait pas été surpris de voir un jour des Aiels tenter d'en traverser un groupe comme s'ils n'avaient pas été là. Rouark avait assuré qu'il ne se passerait rien, sauf si les Kairieniens commençaient. Dobraine tenait le même discours. Rien à redouter tant que les Aiels restaient à leur place. Pour sa part, Perrine espérait que ses alliés ne s'entretueraient pas avant d'avoir attrapé les Aes Sedai. Il avait également l'espoir que les hommes de Mayenne puissent faire office d'intermédiaire entre les deux autres groupes. Ce qui ne l'empêchait pas, en certaines occasions, de regretter leur présence. Les soldats de Berelaine s'entendaient très bien avec ceux de Dobraine. Après tout, il n'y avait jamais eu de guerre entre Mayenne et le Kairienne, et il n'avait aucun problème non plus avec les Aiels. Excepté lors de la guerre des Aiels, il n'avait jamais dû affronter les guerriers du désert. Dobraine se montrait fort amical avec Norel, au point de prendre souvent le repas du soir avec lui, et le chef des gardes ailés n'hésitait jamais à aller fumer la pipe avec un groupe d'Aiels, en particulier quand Gaul était là. La raison des regrets de Perrine. Le 4e jour de voyage, Norel avait abandonné ses cavaliers pour venir chevaucher en tête de la colonne près de Perrine.
« J'ai parlé avec Gaul »,
avait-il annoncé. Perrine l'avait écouté d'une demi-oreille. Le matin même, Flamme Sauvage avait autorisé un jeune mâle à approcher des Aes Sedai peu après qu'elles se furent mises en route. Le loup n'avait pas senti l'odeur de Rande. Et apparemment, tous les loups la connaissaient. Cela dit, et même si les images transmises par nuages du matin étaient imprécises, il semblait bien que tous les chariots sauf un étaient bâchés. Rande devait être dans l'un d'eux, bien plus à l'aise que Perrine, menacé de se noyer dans sa sueur tant il étouffait.
« Il a évoqué la bataille de Champ des Mondes, »
avait continué Norel.
« Et ta campagne de Deux-Rivières. Seigneur Aibara, ce serait un honneur pour moi de te l'entendre raconter de vive voix. »
Perrine s'était redressée sur sa selle, les yeux rivés sur le gamin. Non, Norel n'était pas un gamin, malgré ses joues roses et son visage ouvert. À coup sûr, il avait au moins l'âge du seigneur Aibara, mais son odeur ne laissait pas de doute. Chez lui, Perrine avait capté la même que sur de jeunes gars éperdus d'admiration. Mais être vénéré comme un héros par un type de son âge était presque plus qu'il n'en pouvait supporter. Pourtant, si ces diverses déconvenues s'étaient arrêtées là, il n'aurait pas eu à se plaindre. L'animosité régnant entre les Kairieniens et les Aiels ne l'avait pas surpris une seconde. Et il n'aurait pas dû être davantage étonné qu'un jeune officier sans expérience du combat soit impressionné par un chef ayant affronté et vaincu des Trollocs. En campagne, comme dans d'autres circonstances, c'étaient les problèmes inattendus qui menaient la résistance nerveuse d'un homme, car il frappait quand il ne s'y attendait pas, et pouvait détourner son attention à l'instant où ça risquait d'être fatal. À part Gaol et Rouark, tous les aïels portaient autour du front un bandeau rouge, sur lequel figurait un disque noir et blanc. Perrine avait vu la même chose à Kyrienne et à Kemlin. Mais quand il demanda à Gaol, puis à Rouark, si c'était le signe de ralliement des Siswa Yaman, les deux hommes firent mine de ne pas comprendre de quoi ils parlaient, comme s'ils étaient assez idiots pour ne pas voir un bandeau rouge autour de 5000 crânes. Perrine avait été jusqu'à interroger Urienne, qui semblait être le second de Rouark, un aïel reine du clan des deux pitons qu'il avait rencontré assez longtemps auparavant. Comme les deux autres, Urienne avait fait mine de ne rien saisir. Rouark ayant précisé qu'il ne pouvait emmener que des Siswa Yaman, le jeune homme décida que les guerriers qui l'accompagnaient en étaient, même s'il ignorait le sens de ce mot. Très vite, il s'aperçut qu'il risquait d'y avoir des frictions entre ces Siswa Yaman et les Promises. Lorsque certains de ces guerriers regardaient les Fardar Ismail, une odeur d'envie émanait d'eux. Et quand des Promises observaient ces hommes, leur odeur faisait penser à celle d'une louve, qui se délecte de la carcasse d'un cerf et préférait mourir d'une indigestion plutôt que d'en laisser un lambeau aux autres membres de sa meute. Oui, il y avait un problème. Difficile à identifier, certes, mais grave. Cela dit, c'était pour l'instant une virtualité, contrairement à d'autres tracas. Dès que Rouark disait quelque chose au sujet des Promises, Souline et Nandera réagissaient en même temps. À chaque occasion, Souline avait accepté de passer au second plan, mais ça ne l'empêchait pas de recommencer la fois d'après. Le deuxième soir, une fois le camp dressé, les deux aïels avaient failli s'entretuer. C'était au moins ce qu'avait cru Perrine en les voyant se décocher des coups de pied, se frapper du poing, se jeter l'une l'autre sur le sol et se tordre les bras au-delà du point de rupture. Enfin non, juste avant. Puisque celle qui était dominée parvenait toujours à se dégager souplement avant la catastrophe. Quand Perrine avait essayé d'intervenir, Rouark l'en avait empêché, l'air étonné qu'une telle idée lui traversait la tête. Beaucoup de soldats de Kaïrienne et de Mayenne étaient venus regarder le duel et parier sur son issue. En revanche, pas un seul aïel, ni même une matriarche, n'avait daigné y jeter un coup d'œil. Pour finir, Souline avait réussi à plaquer Nandera sur le ventre. Lui tordant un bras dans le dos, elle l'avait empoigné par les cheveux, puis lui avait cogné le visage contre le sol jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Un long moment, l'aîné des deux aïels avait contemplé son adversaire vaincu. Puis elle l'avait hissé sur ses épaules et s'était éloignée en titubant. Perrine en avait déduit que Souline exercerait le pouvoir chez les Promises désormais. Eh bien, il s'était fourré le doigt dans l'œil. Souline, toujours dans ses jambes, c'était encore Nandera, couverte de contusions, qui répondait aux questions de Rouark et prenait ses ordres. En tout aussi mauvais état, Souline ne pipait pas mot et obéissait sans discuter, dès que Nandera lui demandait de faire quelque chose. Perplexe, Perrine se gratta le crâne et se demanda s'il avait interprété la fin du duel comme il le fallait. Les matriarches marchaient toujours au bord de la route, par groupes de taille très fluctuante, et dont les membres changeaient en permanence. Dès la fin du premier jour, Perrine s'était avisée que tout tournait en réalité autour de deux femmes, Soriléa et Amis. Au soir du deuxième jour, il avait eu la certitude que les deux matriarches incarnaient des points de vue radicalement différents. Sinon, à quoi auraient rimé tous ces regards noirs et ces froncements de sourcils? De temps en temps, Perrine captait le nom Aes Sedai, souvent accompagné des mots coutume et bataille. Mais il n'entendait jamais assez de choses pour comprendre de quoi il était question. En tout cas, Amis commençait à céder moins facilement et à ne plus rougir aussi vite. Lorsqu'il regardait sa femme, Rouark exhalait parfois un parfum d'inquiétude. Le seul signe indiquant qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Le troisième soir, Perrine redouta que des matriarches se piquent d'imiter Souline et Nandera. Mais il n'en fut rien. Quant aux deux Promises, elles allaient s'asseoir à l'écart du camp et retirèrent leurs foulards. Dans la pénombre, le jeune homme les observa, gardant assez de distance pour être sûr de ne pas entendre ce qu'elles disaient, même accidentellement. Mais jusqu'à ce qu'ils décident d'aller se coucher, elles se contentèrent de converser en buvant des gobelets d'eau. Le lendemain matin, les matriarches recommencèrent leur manège, se déplaçant d'un groupe à l'autre. Mais avant que la colonne ait couvert une lieue, Perrine s'aperçut que tout tournait désormais autour de Soriléa. De temps en temps, Amis et elle s'isolaient pour parler. Mais il n'y avait plus de regard noir. Dans une meute de loups, Perrine aurait dit que le chef avait relevé un défi et gagné. Et si on se fiait aux odeurs, Sorilea acceptait désormais Amys comme une égale, ou presque, ce qui ne correspondait pas du tout aux pratiques des loups. Au septième jour de voyage, sous un soleil matinal brûlant, Perrine ruminait ses idées noires habituelles. Quelle surprise lui réservait encore les Aiel ? Réussirait-il à ne pas sauter à la gorge des Kerianiens un jour de plus ? Et réciproquement ? Et dans 3 ou 4 jours, quand l'injonction sera faite avec les Aes Sedai, que faudrait-il faire ? Un message de demi-queue fit passer au second plan toutes ses préoccupations. À quelques lieues à l'ouest, un important groupe d'hommes, et peut-être aussi de femmes, car les loups avaient du mal à distinguer les sexes chez les humains, se dirigeait droit vers la colonne. La représentation, très schématique, des 2 étendards de cette colonne redonna du cœur au ventre à Perrine. Le voyant se redresser sur sa selle, Dobrein, Nourel, Rouark, Ourienne, Nandera, Souline, Sorilea et Amys accoururent.
« Continuez !»
lança-t-il, en orientant sa monture vers l'ouest.
« Tes amis sont sur le point de nous rejoindre, mais ce n'est pas une raison pour perdre du temps !»
La colonne continua son chemin, mais il ne fut pas permis à Perrine de partir seule. Avant qu'il ait couvert un quart de lieue, une 10aine de gardes ailés, autant de Kerianiens, 20 promises dirigées par Souline, et autant de 6 Wayamans conduits par un type grisonnant aux yeux verts et au visage de marbre, vinrent lui coller au basque. L'absence de matriarche l'étonna un peu, mais il ne s'apesantit pas sur la question.
« Des amis, »
marmonna Souline, tout en avançant sur un flanc de marcheurs.
« Des amis qui apparaissent sans crier gare, et dont ils détectent la présence par on ne sait quel miracle. »
La promise regarda Perrine et haussa la voix.
« Je n'aimerais pas te voir trébucher sur un oreiller et tomber une nouvelle fois sur le nez. »
Perrine secoua la tête, se demandant quelle autre verge pour le battre il avait offerte à Souline quand elle jouait les servantes. Un peuple décidément étrange, ces Aiel. D'après la position du soleil, il chevaucha pendant près d'une heure, guidé par les loups aussi sûrement qu'une flèche vers sa cible, avant d'arriver en haut d'une butte et de découvrir un spectacle qui ne l'étonna pas vraiment. Une demi-lieue devant lui, les cavaliers avançaient en colonne par deux. L'étendard à la tête de loup flottait à l'avant de la colonne, ce qui n'avait rien de surprenant non plus. En revanche, il y avait bien des femmes. 9 compta le jeune homme. Et un petit groupe d'hommes qui ne venaient pas de Deux-Rivières. Une sacrée surprise, ça. Il y en avait une autre, le second étendard. L'aigle rouge de Manéthéren. Combien de fois avait-il dit à ses hommes de ne pas le déployer hors de Deux-Rivières ? Usant simplement de persuasion, il avait réussi à obtenir bien des choses, depuis qu'il était, paraît-il, un seigneur. Mais pas ça. Cela dit, l'image envoyée par les loups l'avait préparé à cette déconvenue. Les nouveaux venus repérèrent vite Perrine et ses compagnons. Parmi ces gars, beaucoup avaient des yeux d'aigle. Tous les cavaliers s'arrêtèrent, certains décrochant de leur dos l'arc long de Deux-Rivières, avec lequel on pouvait tuer un homme à 300 pas, voire plus.
« Personne devant moi !»
ordonna Perrine.
« S'ils me reconnaissent, ils ne tireront pas !»
On dirait que les yeux jaunes voient loin.
Maugréa Souline. Parmi son escorte, bon nombre de gens le regardaient avec un drôle d'air. Alors que le jeune homme approchait, son étrange escorte à la traîne, les arcs se baissèrent les uns après les autres. Avec ravissement, Perrine vit que ses hommes avaient avec eux Trotteur et Hirondelle. S'il arrivait malheur à la jument noire, Fail ne le lui pardonnerait jamais. Monter de nouveau Trotteur serait un plaisir, mais il garderait peut-être aussi Marcheur. Après tout, un seigneur pouvait se permettre d'avoir 2 montures. Oui, même un seigneur à qui il ne restait peut-être que 4 jours à vivre. Danil et Aram se détachèrent de la colonne, et les femmes les suivirent. De très loin, Perrine identifia des visages sans âge d'Aes Sedai. Puis il reconnut Vérine et Alana, qui fermaient la marche. Les autres ne lui disaient rien, mais ils n'avaient aucun doute sur leur nature, même s'ils se demandaient comment ils étaient arrivés ici. 9. 9 Aes Sedai. Dans 3 ou 4 jours, ses sœurs pourraient lui être utiles. Mais jusqu'à quel point leur faire confiance? Il y avait 9 sœurs. Et Rand lui avait dit qu'il en tolérait seulement 6 autour de lui. Alors que Perrine se demandait laquelle des femmes était Merana, la chef, le groupe de Danil fit la jonction, et une Aes Sedai au visage carré, on eût dit une paysanne sans âge, prit la parole avant tout le monde.
« C'est donc toi, Perrine Aibara, »
dit-elle.
«
Le seigneur Perrine, devrais-je dire. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. Te rencontrer ici est une surprise. »
ajouta une femme fort jolie mais bouffie d'arrogance.
« Et en très étrange compagnie. »
Alors que sa compagne montait une solide jument alezane, cette sœur chevauchait un hongre sombre à l'œil féroce. Un animal entraîné pour devenir un destrier, aurait parié Perrine.
« Nous étions sûrs que ta colonne serait déjà devant nous. »
Ignorant les sœurs, une des deux devait être Merana, et pour l'instant il ne savait pas quoi lui dire, le jeune homme se tourna vers Danil.
« Ne va pas croire que j'en suis mécontent. Mais comment êtes-vous arrivé ici ?»
Danil lorgna les Aes Sedai, puis il lissa furieusement son épaisse moustache.
« Seigneur Perrine, nous nous sommes mis en chemin comme tu l'as dit, et aussi vite que possible, en laissant les chariots derrière nous, puisque tu devais avoir une bonne raison de t'éclipser si rapidement. Ensuite, Kiruna Sedai, Bera Sedai et les autres nous ont rattrapés, annonçant qu'Alana pouvait trouver Rand, le seigneur dragon, je veux dire. Et puisque tu étais parti avec lui, j'ai pensé que tu serais toujours en sa compagnie. Comme il n'y avait pas moyen de savoir si tu avais quitté Kairienne.
Danil s'interrompit pour reprendre son souffle.
Bref, nous voilà. Et il semble que les sœurs aient eu raison, n'est-ce pas, seigneur ?
Le front plissé de perplexité, Perrine se demanda comment Alana pouvait trouver Rand. Mais ce devait être vrai. Danil et les autres n'auraient pas été là. Avec Vérine et une femme mince aux yeux noisettes qui semblait soupirer souvent, Alana restait toujours au dernier rang des femmes.
« Je suis Bera Harkin. »
dit la femme au visage carré. Elle désigna la belle dédaigneuse.
« Et voici Kiruna Nachiman. »
Apparemment, les autres pouvaient se passer de présentation pour l'instant.
« Nous diras-tu ce que tu fais là alors que le jeune Altor, le seigneur dragon, est à plusieurs jours au nord d'ici ?»
Perrine n'eut pas besoin d'un long débat intérieur. Si ses sœurs avaient l'intention de se joindre aux ravisseuses de Rand, il ne pourrait rien faire pour les en empêcher. Mais neuf Aes Sedai dans son camp, en revanche,
Rang de prisonnier. Une Aes Sedai nommée Coiren et cinq autres sœurs au moins le conduisent à Tarvalon. Enfin, elles en ont l'intention. Moi, je compte bien contrarier leur plan.
Cette nouvelle eut un effet bœuf. Alors que Danil écarquillait les yeux, toutes les sœurs se mirent à parler en même temps. Seul Aram resta de marbre, mais il ne se souciait de rien, à part de son épée, qu'il portait dans le dos et de Perrine. Malgré leur impassibilité, l'odeur des sœurs trahissait leur indignation et leur angoisse.
« Bera, il faut les arrêter !»
lança une femme aux nattes ornées de perles à la mode du Tarabone.
« Oui, et Laïda ne doit pas la voir !»
renchérit une Kyrienienne montée sur une jument baie.
« Six !»
s'exclama la femme aux yeux noisettes, incrédule.
« Contre lui, ce n'est pas assez, j'en suis sûr. Il était blessé, je vous l'ai dit !»
gémit Alana. Perrine reconnut le chagrin dans son odeur familière.
« Oui, je vous l'ai dit !»
Vérine n'ouvrait pas la bouche, mais elle sentait la colère et la peur. Kiruna jeta un regard méprisant à l'escorte du jeune homme.
« Tu espères arrêter des Aes Sedai avec ça ?» Vérine n'avait pas précisé qu'il te manque une case.
« J'ai d'autres forces sur la route de Tarvalon, »
répondit sèchement Perrine.
« Dans ce cas, tu pourras te joindre à nous. »
lâcha Kiruna, comme si elle faisait une faveur à un idiot du village.
« Si tu n'y vois pas d'inconvénient, Bera. »
Aes Sedai acquiesça. Incapable de comprendre pourquoi l'attitude de Kiruna lui tapait ainsi sur les nerfs, Perrine décida que ce n'était pas le moment d'y réfléchir.
« J'ai aussi 300 archers de deux rivières que je veux ramener sur la route avec moi. »
Comment Alana avait-elle su que Rand était blessé ?
« Si vous voulez nous suivre, Aes Sedai, vous êtes les bienvenus. »
Les sœurs n'apprécièrent pas cette façon de présenter les choses. Elles s'isolèrent pour débattre, en utilisant le pouvoir pour que rien ne filtre de leur conversation, et Perrine redouta qu'elles décident de partir de leur côté. Au bout du compte, il n'en fut rien. Mais sur le chemin du retour, Kiruna et Bera flanquèrent Perrine et lui tinrent un sermon sur ce qu'elle considérait comme une situation délicate et hautement périlleuse. Car il ne devait en aucun cas mettre en danger la vie du jeune Altor. De temps en temps, Bera se souvint de parler plutôt du dragon réincarné. Quoi qu'il en soit, les deux sœurs furent d'accord sur un point. Perrine ne devait pas faire un demi-pas sans leur demander d'abord la permission. Alors que Bera parut vexée quand il refusa de répéter après elle ses consignes, Kiruna sembla penser que c'était une formalité inutile. De son côté, Perrine se demanda s'il n'avait pas commis une bévue en les invitant à venir. En atteignant la route, les Aes Sedai furent peut-être impressionnés par le nombre d'Aiel, de Kerianiens et de soldats de Mayenne qui composaient la colonne. Mais elles prirent bien soin de ne pas le montrer. En revanche, elles jetèrent un peu d'huile sur le feu, comme il fallait s'y attendre. Le contraire aurait été trop beau. Les gardes ailés et les Kerianiens parurent réconfortés par l'arrivée de 9 Aes Sedai et de 16 champions. Dès qu'une des sœurs approchait, ils devaient se retenir pour ne pas se répandre en courbettes et en flagornerie. Les promises et les 6 Wayaman, en revanche, regardaient les sœurs comme s'ils redoutaient qu'elles veuillent les écrabouiller sur leurs chaussures. Quant aux matriarches, elles affichaient un masque d'impassibilité, comme de juste. Mais Perrine sentait monter d'elle une odeur de colère noire. À l'exception de Masuri, une sœur marron, les Aes Sedai ignoraient superbement les matriarches. Mais après que Masuri eût été repoussée une bonne dizaine de fois en 3 jours, si elle n'était pas facile à décourager, les Aiel avaient un don pour éviter les sœurs sans même donner l'impression d'y penser. Bera, Kiruna et les autres commencèrent à observer les matriarches avant de tenir des messes basses à l'abri de quelque invisible barrière qui empêchait Perrine lui-même d'entendre quelque chose. S'il l'avait pu, le jeune homme se serait adonné à l'espionnage. Ces femmes, il en était sûr, occultaient davantage que des conversations au sujet des Aiel. Pour commencer, Alana refusait de lui dire comment elle savait où était Rand.
Certaines connaissances carboniseraient tout autre cerveau que celui d'une Aes Sedai,
avait-elle pompeusement déclaré. Malgré sa froideur, elle empestait l'angoisse et le chagrin, et elle ne reconnaissait même pas avoir dit que Rand était blessé. Muette comme une tombe, du moins avec Perrine, Vérine regardait tout cela avec ses yeux sombres d'oiseau et un petit sourire sur les lèvres. Mais elle sentait la frustration et la fureur. Se fiant aux odeurs, Perrine aurait dit que Bera ou Kiruna dirigeaient ce groupe de sœurs. Bera, probablement, même si l'écart n'était pas grand et s'inversait selon les circonstances. En tout cas, une des deux chevauchait à ses côtés chaque jour pendant de longues heures. Égrenant d'interminables variations sur leur conseil originel, ces deux femmes se comportaient en tout cas comme des chefs. À l'évidence, Nourel les considérait ainsi, prenant ses ordres auprès d'elle sans même jeter un coup d'œil à Perrine. Dobrein, lui, s'acquittait du coup d'œil, mais le résultat final était le même. Un jour et demi durant, Perrine supposa que Merana était restée à Kemlin. Il fut donc stupéfait lorsqu'une des sœurs appela la femme aux yeux noisettes par ce nom. D'après Rand, c'était elle qui dirigeait la délégation de Salidar. Malgré l'égalitarisme de surface qui régnait entre les sœurs, Perrine la rangea d'instinct dans la catégorie des dominés. D'ailleurs, elle exhalait une odeur de résignation et d'anxiété. Que des Aes Sedai aient des secrets n'avait rien d'étonnant, bien entendu. Mais Perrine avait l'intention d'arracher Rand des griffes de Khoiren et de ses complices, et il aurait aimé savoir s'il devait s'attendre au même combat contre Kiruna et ses compagnes. Au moins, le jeune homme se réjouissait d'avoir retrouvé Danil et les autres, même s'il se montrait presque aussi lèche-botte avec les Aes Sedai que les gardes ailés et les Kerianiens. Ravis de revoir leur chef, les hommes de Deux-Rivières n'avaient pratiquement pas râlé lorsqu'il leur avait ordonné de ranger l'étendard à l'aigle rouge. Bien entendu, on le reverrait tôt ou tard, Perrine l'aurait parié. Mais pour l'heure, tel Lewin, le cousin de Danil, qui lui ressemblait comme un frère, n'était un nez plus pointu et une fine moustache de style d'Omani, l'avait soigneusement rangé dans une de ses sacoches de sel. La colonne n'en était pas pour autant privée d'étendard. Pour commencer, il y avait la tête de loup rouge de Perrine, bien entendu. Cet étendard-là, s'il avait demandé à ses hommes de le plier, ça ne se serait sûrement pas passé aussi bien. De toute manière, le regard dédaigneux de Kiruna lui donnait envie de l'exhiber. En plus, il y avait les étendards de Dobrein et de Nourel, qui n'avaient vu aucune raison de s'en priver plus longtemps, puisque les gardes de Rivière en arboraient un. Mais ils n'avaient pas choisi le soleil levant du Kaerien ou le faucon doré de Mayenne. À la place, ils avançaient sous les deux drapeaux classiques de Rand. Le dragon rouge et or sur fond blanc et le disque noir et blanc sur fond écarlate. Alors que les Aiel ne réagirent ni dans un sens ni dans l'autre, les Aes Sedai devinrent encore plus glaciales. Pourtant, il ne semblait pas y avoir étendard mieux adapté à cette peu ordinaire colonne. Le 10e jour, alors que le soleil était à mi-chemin de son zénith, Perrine se sentait d'une humeur sinistre, malgré la présence des hommes de Deux-Rivières et de son cher trotteur, qui le portait bravement. En principe, ils auraient rattrapé les Aes Sedai vers midi, et ils ne savaient toujours pas quoi faire. Et ils l'ignoraient toujours quand arriva le message des loups.
« Venez, beaucoup de deux pattes, beaucoup, beaucoup, beaucoup !»